Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et c'est la suite du Grand Matin Sud Radio, les grands débats ce matin. Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy, vos appels au 0826-300-300. Trois grandes thématiques ce matin, bah oui. Puisqu'en pleine période législative, finalement l'abstention chez les jeunes, Patrick.
Ouais, l'abstention chez les jeunes, 70% chez les moins de 34 ans. Alors on a essayé de comprendre ce matin avec nos différents invités, bien sûr, il y a cette abstention. Il y a l'autre sujet des consignes de vote. Alors... il n'y a pas de nini cette fois. Non. Il y aurait pu y avoir un nini. Ben non, c'est barrage contre l'extrême droite.
Et barrage contre l'extrême gauche.
Alors, dans certains cas, oui. C'est au cas par cas. Non, c'est pas clair. On l'a vu, en fait, tout de suite avec Sarah Hillary, qui était notre invitée. Et puis alors, allez, un tout petit peu plus léger, tout de même, quoi, aussi. Pour faire du vélo.
Oui.
Pour faire du vélo, il y a des pistes cyclables, bien sûr, en fait, aujourd'hui. Bah, à Lyon, on a décidé
de mettre en place, dans la métropole de Lyon,
des pistes cyclables non genrées. Non genrées.
Alors, et comme on a demandé au
maire de Lyon, qui était notre invité, Grégory Doucet, ce matin à 7h40.
L'objectif, c'est de faire en sorte que nos voies cyclables, eh bien, elles soient accessibles à tout le monde.
Oui, d'accord.
Elles soient inclusives. Mmh. Et vous savez, aujourd'hui, le vélo, c'est majoritairement une pratique masculine, à 60%.
Mmh. Voilà. Oui,
et qu'il y a un certain nombre de femmes qui n'osent pas, aujourd'hui, franchir le pas d'aller sur un vélo et de circuler dans la ville.
Ouais.
Pour des raisons qui sont... diverses et variées.
Ouais.
Le fait qu'aujourd'hui la pratique soit majoritairement masculine doit nous inviter à réfléchir. Et c'est ce que terme-là nous invite à faire.
Ouais. Voilà. Je vais poser. Alors là, on a coupé qu'un petit extrait parce que je lui ai posé la question. J'ai dit, mais c'est pas interdit, en fait, un sexe ou un autre, quoi. D'où l'argumentation, oui, mais il y a plus d'hommes qui font du vélo que de femmes, donc il faut les rendre beaucoup plus accessibles, etc. Elisabeth Lévy, Lydia Guérousse, ça vous a fait réagir,
mais...
Elisabeth, oui.
Écoutez, là, on est chez les cinglés, excusez-moi. On va donc obliger les femmes à faire du vélo si elles n'en ont pas envie? Non, mais c'est vraiment invraisemblable.
Ah non, c'est pas ça. Il ne dit pas ça.
Mais non, ça veut dire quoi? Que des femmes n'osent pas faire du vélo parce que les pistes sont genrées? Mais on se moque de nous. C'est encore une sorte d'entreprise de victimisation. Si vous voulez, puis ça fait marrer tout le monde. Mais moi, j'aurais élu un maire, remarquez, c'est vrai? Merde, j'en ai élu un. Pardon. J'aurais un maire qui ferait ce genre de sottise, mais ça me rendrait dingue. Justement, on en a un aussi. Alors, elle n'a pas été jusqu'aux pistes non genrées.
Ça va venir, Lydia,
j'espère que vous oserez faire du vélo demain et puis que ça saute. Hein.
Ouais. Non,
allez-y, au vélo.
Plus sérieusement, est-ce que vous pouvez comprendre la démarche, c'est-à-dire de rendre ces... Lydia Guérousse.
Non, je pense qu'ils sont... Franchement, il y a tellement d'autres sujets qui devraient traiter sur la métropole de Lyon, tellement d'autres sujets qui sont urgents pour les Lyonnais.
Pardon, mais moi, là, c'est prendre les femmes pour des idiotes.
Aussi, franchement,
merci,
allons-y.
Cécile.
Non, mais allons-y. Je pense qu'en France, les femmes n'ont pas besoin qu'on leur dise faites du vélo. Il y a une volonté comme ça de rééduquer, de penser à la place des autres, qui est insupportable. Et je ne sais pas en fait ce que les écologistes ont encore d'écologistes. Ils sont sans arrêt dans le sociétal, à trifouiller dans les quotas, dans des trucs. Ça n'a aucun sens.
Éric
peut-être
Revel,
celui
qui s'est
de faire
déjà
le
installé
buzz,
pour sa chronique de tout à l'heure de Revel en campagne, va réagir. Mais alors, j'explique quand même le contexte.
Je ne comprends pas très bien en quoi les pistes actuelles techniquement vont être différentes des futures je comprends pas, c'est quoi une piste
parce que vous êtes des salauds
quand on les interroge c'est ce que je lui dis parce que ce n'est pas interdit, il dit mais il faut les rendre plus accessibles grosso modo, c'est parce qu'ils estiment que par exemple quand on détaille, on n'a pas fait non plus 10 minutes en fait là-dessus tout à l'heure, mais que globalement par exemple il faut les éclairer davantage, il faut
les
rendre
moins bien
c'est ce qu'il dit. Moi, je vous rapporte en fait les arguments. Il faut les éclairer en fait davantage. Il faut les rendre plus les sécuriser en fait un peu mieux pour et les rendre inclusives aussi. C'est-à-dire que par exemple, alors là, ça s'adresse cette fois-ci au plus aux handicapés pour qu'ils puissent emprunter aussi ces pistes cyclables. Voilà pourquoi.
Je pense que c'est un prétexte en fait. Ils utilisent les femmes comme un prétexte.
L'accessibilité aux handicapés, ça c'est encore autre chose.
Bien sûr.
Mais je ne vois pas en quoi. Parce que, pardon, s'il faut éclairer davantage et sécuriser davantage les pistes cyclables pour les femmes, mais pardon, mais le maire de Lyon stigmatise les femmes. C'est-à-dire qu'il part du principe que quoi ? Qu'elles voient moins bien.
C'est pas le maire, c'est enfin, le patron de la métropole.
Qu'elles conduisent moins bien, qu'elles voient moins bien.
C'est la disparition de l'automobile qui est ciblée derrière. Et vraiment, c'est ça. Et donc, ils utilisent les femmes, l'inclusivité, comme prétexte pour élargir davantage les pistes cyclables et au fur et à mesure rendre la vie tellement impossible aux automobilistes qu'on aura des villes comme Lyon qui seront sans possibilité de circuler avec des voitures. C'est ça. Donc, c'est juste une instrumentalisation.
On va vers l'interdiction des voitures dans les cœurs de ville.
Ils prennent ça comme prétexte.
Excusez-moi, c'est vraiment très mal. Et les non-binaires, alors personne n'y a pensé. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Mais écoutez-vous, on devrait peut-être même pas en parler, alors puisque c'est fait pour ça, je suppose.
Ça existe comme sujet.
Pas dit qu'on devait pas, j'ai dit peut-être qu'on tombe dans leur piège, cher Patrick, parce que, si vous voulez, depuis qu'il y a eu cette histoire de piste non-genrée, ça fait marrer tout le monde. Je n'ai même pas rencontré une personne, même de gauche, même nupiste, si vous voulez, qui trouve ça sérieux. Donc, je me dis, ces gens-là se moquent de nous. Et par ailleurs, en gros, les femmes sont de faibles petites choses parce qu'il n'y a pas seulement qu'elles voient moins bien, c'est qu'il faut qu'elles soient plus sûres. Donc la sécurité, c'est pour les femmes pendant que les hommes en bon cro-magnon vont chasser hors de la grotte. Mais on se fout de notre gueule. Hein.
Excusez-moi.
Plus de sécurité dans les rues de Lyon. Peut-être c'est plutôt là que les femmes ont envie d'avoir de la sécurité et pas sur les pistes cyclables.
C'est la sécurité pour tout le monde, surtout. Et
bien sûr.
Mais qui s'occupe de ce qui se passe à la guillotière.
Exactement.
Oui.
Franchement, voilà.
Oui. Bon, vous, d'un mot, vous faites du vélo ou pas ? Ça vous donne quand
même
envie ?
À la campagne, oui.
Oui, à la campagne. Bah, non, mais en ville, on peut faire.
Non, pas en ville.
Pourquoi ? Parce que vous trouvez ça trop dangereux, justement ? Peut-être aussi.
Parce que je me sens pas à l'aise pour faire du vélo en ville. Je trouve ça trop dangereux parce que c'est pas mon moyen de transport favori. Donc, je fais pas de vélo en ville.
Oui. Cécile ?
Non, parce que j'ai pas envie d'arriver en sueur au bureau le matin.
Aussi.
Qu'il n'y a pas de douche. Mon ordinateur, mes affaires, et que c'est compliqué à vélo.
Un petit panier en osier, Cécile.
Oui, mais vous savez quoi ? Franchement, j'ai envie de faire du vélo à la campagne. J'ai pas envie de faire du vélo dans les embouteillages.
Non. Alors, je vais vous dire, moi, je fais du vélo le week-end dans Paris. Et moi, je note une chose, c'est qu'avant de parler de pistes genrées, il faudrait déjà sécuriser les pistes existantes, tout simplement. Parce que je peux vous dire que sur certains ronds-points, quand vous tournez, perdez de vue la piste cyclable en question, vous ne savez plus où vous êtes, entre les bagnoles.
Et avoir des cyclistes qui respectent le code de la route, quand même. Moi, je le dis en tant que piéton, je veux que les cyclistes parisiens respectent le code de la route et s'arrêtent au feu rouge. Oui, mais je donne mon expérience.
Oui, c'est vrai. Elisabeth Lévy.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Lydia. Non, mais moi, je suis désolé, je prends le métro ou des fois des taxis pour aller bosser. Mais d'abord, parce qu'on peut lire. D'abord, parce qu'on peut lire. Je suis désolé. Oui, non, mais vous pouvez lire ailleurs, vous pouvez bosser, je suis désolé. Et puis, par ailleurs, parce que à Paris, c'est pollué, vous avez des autobus qui ne vous voient pas. Franchement, à Paris, moi, j'aurais la trouille. Alors que j'adore le vélo, j'en ai fait dans la Drôme l'an dernier. Pour moi, c'est plutôt un loisir ou un sport qu'un moyen de locomotion, mais que chacun soit libre. Ce qui commence à me taper sur les nerfs, c'est le côté maintenant politiquement correct du vélo. C'est bien de faire du vélo. C'est bien de marcher aussi.
Allez,
c'est bien de prendre le métro.
Dans un instant, la campagne des législatives autour des jeunes. Et puis, Emmanuel Macron va-t-il faire campagne ? Il paraît qu'il part pendant 2-3 jours à l'étranger, alors que la Macronie est un peu en danger. Alors, est-ce que c'est du bluff ou est-ce qu'il y a un véritable danger ? Est-ce que la NUPES est en train de les faire trembler tout de même, évidemment. Et là, Jean-Luc Mélenchon, on l'a dit, a réussi son coup. Nous allons en parler dans un instant avec vous et vos appels 0826-300-300.
Et on en parlera bien sûr avec Éric Revel dans un instant, juste après un point sur l'info. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Dans un instant, Éric Revel, en attendant 9h30, quelle place pour le renseignement français dans la sécurité des Français ?
Oui, dans une demi-heure. Donc, c'est l'un des plus grands spécialistes qui sera avec nous et qui a écrit, en fait, cet ouvrage, L'espionnage pour les nuls, Alain Bauer, avec l'avocat aussi Christophe Soulez. Mais derrière ça, il y a aussi toute l'organisation du renseignement en France. Est-ce qu'aujourd'hui, on est bien organisé? Alors, on l'a vu, il y a eu une défaillance au Stade de France l'autre jour. C'est autre chose, évidemment. C'est sûr, ce n'est pas le renseignement militaire, c'est le renseignement policier. Mais il y a eu une réorganisation ces dernières années.
En 2015, il y a eu la loi sur le renseignement.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt, par exemple, pour les Jeux Olympiques? Est-ce qu'on est prêt face à une menace, en fait, toujours terroriste qui est toujours là? Alain Bauer, ne ratez pas ça. Il sera avec nous dans une vingtaine de minutes.
Et vos appels 0826, bien sûr, si vous voulez d'ores et déjà vous inscrire pour poser vos questions. En attendant, c'est Eric Revel.
Oui, Éric Revel, c'est pas la Fédération Française de Football.
Non, mais je pense à ça parce qu'Alain Bauer vient de se faire confier une grosse mission.
Là. Absolument, bien sûr. Oui. C'est ce que nous évoquerons tout à l'heure.
C'est très intéressant.
Parlons de ces législatives. Oui. Emmanuel Macron part 2 jours à l'étranger, au moins 2-3 jours à l'étranger, déplacement en tant que chef de l'État. Il déserte un peu le débat, c'est ça?
Comment
on peut l'interpréter?
Oui. Emmanuel Macron se rend donc aujourd'hui en Roumanie et en Moldavie ensuite, un déplacement essentiellement placé sous le signe de la visite aux troupes françaises amassées aux frontières et en protection dans ces pays, hein, proches de l'Ukraine en guerre évidemment. Alors le chef de l'État français sur place d'ailleurs ne s'interdit pas non plus, on verra, hein, c'est pas très clair, une visite potentielle en Ukraine. C'est donc de nouveau en chef des armées, en chef de guerre, qu'Emmanuel Macron veut marquer les esprits. Vous vous souvenez évidemment du « nous sommes en guerre » pendant la crise du Covid. Et puis tiens, hier, en visitant le Salon international de la Défense, Satori, le président de la République a estimé, je cite, que nous étions dans une économie de guerre, vous voyez, il utilise beaucoup le mot de guerre en ce moment, économie de guerre dans laquelle nous allons durablement devoir nous organiser, a-t-il dit, hein, demandant d'ailleurs au passage une réévaluation de la loi de programmation militaire.
Oui, mais c'est ça, mais Emmanuel Macron qui rappelle qu'il est le chef des armées et que la guerre en Ukraine est de sa responsabilité présidentielle.
Oui, alors économie de guerre, déplacement à l'étranger du fait de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, passez-moi l'expression, il a remis son casque lourd sur la tête et se place évidemment au-dessus de la mêlée politique française. En présidentialisant sa démarche, Emmanuel Macron ne fait pas campagne pour les élections législatives, même s'il y a péril dans la demeure pour le parti présidentiel le 19 juin prochain. Non, Emmanuel Macron est sur le front. Le chef des armées parle de guerre, est au contact des troupes françaises. Bref, il laisse la campagne politique des législatives à sa première ministre Elisabeth Borne, noyée dans la confusion des soutiens ou pas aux candidats NUPES. Mmh. C'est la campagne militaire en Ukraine, qui est de sa responsabilité. Le reste, le président de la République, il semble regarder ailleurs.
Oui, mais est-ce que ça pose un problème finalement, qu'il s'occupe de cette guerre en Ukraine plutôt que de politique politicienne? Franchement, Éric Revel.
Oui, vous avez raison, tout cela est très louable, c'est son rôle après tout. Mais une fois de plus, en refusant de descendre dans l'arène politique française après les élections présidentielles, hein, il n'a pas parlé de son bilan, il n'a pas vraiment parlé de son projet, il n'a pas fait campagne. Après le premier tour des élections législatives, Emmanuel Macron est absent. De nouveau du débat politique français, à ce stade, pas une déclaration, pas une prise de position pour son camp. Alors Jean-Luc Mélenchon, comme à son habitude, il occupe le terrain, il fait campagne, lui, politiquement parlant, il génère la polémique avec cette histoire de tripatouillage sur les résultats. Il y a un risque, on verra dimanche prochain si le calcul présidentiel d'Emmanuel Macron est un pari gagnant.
En même temps, Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy, on ne peut pas reprocher au président de la République aussi de ne pas continuer d'assurer son rôle de chef de l'État, en l'occurrence d'aller visiter les armées. Ça vous choque, ça, ou pas, Elisabeth Lévy, Lydia Guérousse, Elisabeth?
C'est pas que ça me choque, si vous voulez. Moi, je me rappelle, c'est que tout le monde pleurniche sur l'abstention depuis 3 jours. Et pleurnichera encore, bien sûr. Je me rappelle de campagne législative où il y avait un chef de campagne qui était le président ou souvent le premier ministre, mais il y avait majorité, une campagne de l'opposition. Ouais. Si vous voulez, donc, en fait, il fait le calcul, peut-être, d'après, si je comprends bien, Eric, que son statut présidentiel va faire, que les électeurs vont se réveiller grâce à ça.
Oui, absolument.
Excusez-moi.
Ouais. Voilà, c'est ça. Allô, oui, tout va bien, oui.
Voilà, c'est ça.
Emmanuel Macron.
Et Oui, c'était Emmanuel Macron qui voulait m'engueuler. Ah, ouais. Mais moi, j'y crois pas tellement, en fait. Mais moi, l'impression que j'ai depuis le début, mais alors là, c'est vraiment qu'une impression, du ressenti, comme on dit, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron, il voulait gagner, il voulait être élu pour l'exploit, mais qu'il a pas tellement la niaque pour gouverner.
Ah bon?
Mais j'ai j'ai pas l'impression qu'il y a un grand désir, un grand appétit. On l'a pas vu. Franchement, on n'a pas le sentiment, même que c'est législative. On aurait dû voir l'Élysée en ordre de marche, non? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs?
Lydia Kérous.
Normalement, c'est censé être le Premier ministre qui fait campagne, mais là, c'est vrai que la Première ministre Elisabeth Borne n'est pas une ministre hautement politique. Et donc, c'est assez difficile. Moi, je pense que le président de la République ne va pas avoir d'autre choix, même si le temps est compté, à un moment, d'avoir une expression, d'essayer de remobiliser ses troupes ou de faire quelque chose pour essayer d'avoir la majorité la plus importante possible. Je ne vois pas comment il peut en faire l'économie, parce que malheureusement, il peut compter que sur lui et Elisabeth Borne. C'est pas très enthousiasmant, quoi. C'est pas de nature à créer un élan.
Oui, oui, c'est ça. Elle manque un peu d'expérience à ce niveau-là, quoi.
Surtout face à Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même une machine de campagne redoutable.
Oui. Éric Revel.
On l'a vu très nettement dimanche soir. Vous avez écouté le discours d'Elisabeth Borne. C'était une bonne copie de haut fonctionnaire, mais ça n'avait rien de chef d'un parti politique ou de chef d'une majorité. Mmh. Et là, à mon sens, on atteint la limite du système. C'est-à-dire qu'à force de nommer des gens qui sont des hauts fonctionnaires intelligents ou des conseillers techniques à des postes de responsabilité, on aboutit à ce genre de choses. Et puis, pardon, mais la tradition française, jusqu'à peu, c'était que le Premier ministre, d'où d'ailleurs, c'est un constat, pas un jugement de valeur, la démarche de Mélenchon, c'était un chef politique qui représentait une majorité. Donc il avait un poids politique. Aujourd'hui, c'est vrai que normalement, c'est le Premier ministre qui fait campagne, mais quel est le poids politique d'Elisabeth Borne? Là, pour l'instant, elle va essayer d'être élue dans le Calvados. On atteint le système, la limite du système.
Il n'y a pas d'autres gros poids lourds, entre guillemets.
Mais c'est ça, la difficulté, c'est au-delà d'Elisabeth Borne, dans ce nouveau gouvernement, les poids lourds politiques sont très limités et ceux qui sont là ne sont pas mouillés énormément.
Mais par exemple,
pourquoi François Bayrou,
il n'y a pas Bayrou et Édouard Philippe dans la majorité?
Pourquoi François Bayrou, qui fait partie de la majorité, qui soutient le président de la République, il est aux abonnés absents. Il est nulle part, le haut-commissaire au plan.
Parce qu'il boude, il n'a pas
c'est incroyable. Voilà un type qui a une expérience politique, qui depuis le début, depuis 2017, soutient Emmanuel Macron. Voilà un type qui a une expérience politique, qui aurait une voix qui porterait, on l'écouterait sans doute, enfin son camp. Il est totalement absent. Donc il n'y a pas de leader politique.
Enfin, je suis pas sûr que François
Il y a un président
Bayrou
de la République qui va à l'étranger. Et Elisabeth Borne qui fait ce qu'elle peut, c'est très respectable, mais qui a ni le charisme.
Et Édouard Philippe, vous parliez d'Édouard Philippe,
Édouard Philippe,
il accorde une interview ce matin à nos confrères du Figaro. Il essaie de revenir un petit peu pour évidemment compter. Où il dit il est essentiel de maintenir l'élan réformateur. Les conditions restent réunies pour mener à bien. Enfin, c'est
le
minimum,
service minimum. En cas de grève, c'est le service minimum.
Je voulais répondre à Lydia. C'est vrai que Bayrou ne déplace pas les foules. Cela dit, ce qui manque cruellement à cette majorité, c'est des vieux briscards, des gens qui connaissent la politique, qui connaissent le terrain, qui ont l'habitude de faire des campagnes, si vous voulez. Et ça manque cruellement à Emmanuel Macron, d'ailleurs, depuis longtemps. Rappelez-vous, comment s'appelait le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Oui. J'ai un problème avec les prénoms ce matin, pardonnez-moi. Donc Gérard Collomb est parti, ça a privé Emmanuel Macron de quelque chose qu'il n'a pas. Ils sont très bien, Attal et les autres. Mais si vous voulez, ils sont des petits jeunes, des oiseaux sortis du nid.
Alors, ça nous amène à notre autre sujet du jour. Vous les vieux briscards, mais finalement, ce sont les personnes les plus âgées qui votent. Le gros problème de ce manque de mobilisation aussi, ce sont les jeunes. 70% des moins de 34 ans ne sont pas allés voter dimanche dernier. Est-ce que, Cécile, il y avait des messages qui allaient dans ce sens, en fait, tout à l'heure, en disant que peut-être aussi que ces jeunes n'étaient pas représentés suffisamment.
Oui, c'est ce qu'il disait. Ça y est, les victimes.
Il disait que sur les chaînes d'infos, pour eux, difficile de parler politique avec des gens qui ont trois fois leur âge et que, effectivement, la jeunesse n'est pas représentée dans les débats politiques.
Dans les débats politiques.
Excusez-moi, je trouve trouve cet argument particulièrement stupide. Moi, j'ai toujours parlé quand j'étais jeune avec des gens qui avaient plus d'expérience que moi et je m'en suis trouvé fort bien. Ouais. Je pense qu'il faut arrêter de victimiser tout le monde et ces pauvres jeunes, on fait rien pour eux et nanana. Écoutez, je veux dire, quand on est jeune, on a la chance d'être introduit à un monde qui est déjà là avant soi. Ouais. Donc, si vous voulez, cette idée que tout le monde devrait s'adapter à eux, ben non.
Et allez, qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement les jeunes ne se sont pas déplacés par paresse, par dépit ou parce que par des
intérêts ouais.
ou peut-être aussi qu'il n'y a pas des moyens adaptés. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde a un iPhone, le fameux vote électronique notamment. Est-ce qu'il ne faudrait pas pour certains types d'élections
tout le monde a des pieds, enfin la plupart des gens aussi.
Des vélos surtout, il y a des pistes cyclables.
Non genrées.
Appelez-moi Paul, ma chère Elisabeth. Allez, dans un instant, 0826 300 300.
On revient dans un instant, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h17, la suite des grands débats ce matin avec Lydia Guérous, Elisabeth Lévy, Eric Revel. Vos appels 0826 300 300. Et d'ailleurs, Alain est avec nous.
Alain, bonjour.
Bonjour Alain.
Oui, bonjour à tous.
Vous nous
attendez là sur l'abstention et sur les jeunes.
Oui, oui.
C'est vrai que bon, c'est bien d'aller à pied, mais aujourd'hui, on a des moyens autres qui permettent de voter électroniquement. Et d'ailleurs, dans les élections professionnelles, on vote tous avec par vote électronique. Donc, je comprends pas encore pourquoi on n'a pas mis en place le vote électronique en France.
Ouais.
Et je pense que le président ou tout ce qui se plaignent aujourd'hui de l'abstention ferait bien de mettre en place des solutions qui sont déjà en place d'ailleurs. Si on regarde en Estonie, tout le monde vote électronique. Ceux qui ont la possibilité, en tout cas, c'est un moyen de... Je regardais un peu les chiffres, en 2009, on était à 5% des gens qui votaient de façon électronique. Aujourd'hui, ils sont à 43%.
C'est-à-dire
que... pourquoi on ne met pas ça en place? Je pense que c'est... Est-ce que c'est une volonté politique pour garder nos anciens, en gros, encore au Parlement? Ou est-ce que c'est vraiment une volonté de... Est-ce qu'on va changer là-dessus?
Oui, c'est intéressant votre réflexion. Oui, à ce sujet, c'est vrai que on est dans un côté trop conservateur, quoi, un petit peu, et on a du mal à passer en fait la vitesse supérieure.
On peut commander son passeport presque par Internet et on n'arrive pas à voter par Internet.
Oui, oh ben, le passeport, là, il faut 3 mois. Là. Donc maintenant, on n'est pas au point.
C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il faut 3 mois pour avoir le passeport, mais pour créer la fiche et pour pouvoir aller à la mairie, vous le faites un...
C'est vrai.
C'est un peu compliqué, parce que ça a été très engorgé quand même.
Oui, c'est vrai. Mais en revanche, on peut le remplir.
Il y a plein de choses qui se font électroniquement. Vos impôts, comment vous les déclarez?
Bien sûr.
De façon électronique, et ça fonctionne depuis des années.
C'est vrai. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir les deux modes, et notamment l'expérimenter peut-être sur certains scrutins tels que ceux-ci, hein, Alain. C'est garder à la présidentielle peut-être le vote plus classique pour...
Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un problème technique, puisque regardez, les expatriés ont pu voter cette année de façon électronique. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais voilà. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont pu voter de façon électronique.
Oui, c'est vrai.
Donc, et ça résoudrait le problème. Ce n'est pas possible d'avoir moins de 50% des électeurs qui ne peuvent pas voter.
C'est vrai que ça éviterait les
problèmes. Ce qui veut dire que finalement, il y a une personne sur quatre qui est... Qui est représentative au final.
Et 70% des moins de 34 ans, quand même, qui ne sont pas allés voter. Alors, on va voir si au second tour, il va y avoir davantage une mobilisation, mais c'est quand même énorme. Vous imaginez.
Y compris dans des grandes villes. Et donc, j'entends cette évolution, mais je ne sais pas si c'est le fait de se déplacer, en fait, et donc de mettre en place. Un vote électronique qui va faire que les personnes
vont encore à la gare chercher votre billet de train.
Moi je mets pas sur un plan d'égalité aller chercher un billet de train et puis remplir mon devoir de citoyen.
C'est peut-être pas tous les gens qui sont partis à la plage ce week-end ou qui ont été à la campagne avec le soleil. C'est contraignant d'aller voter. Il faut rester.
C'est contraignant la démocratie.
Il faut bloquer sa journée pour ça.
Mais justement, c'est pas mal que ce soit contraignant. Excusez-moi, il y a un rituel du vote.
Exactement.
Moi, j'aime bien. Je dois dire que moi, je suis attaché au rituel du vote. qui est qu'effectivement, y a un moment que vous consacrez à votre pays où vous faites le petit sacrifice avant d'aller à la campagne ou en revenant de prendre une demi-heure pour aller voter. Je trouve, si vous voulez, que si vous êtes investi dans ce que dans ce qui se passe au niveau de la collectivité, je trouve que cette idée que ces pauvres jeunes, ils sont pas allés voter parce qu'on leur a pas donné le vote électronique, je trouve ça vraiment trop gentil pour eux.
C'est pas ce que je veux dire.
Bah non, c'est pas ce que dit Anna.
Madame, c'est un outil, c'est pas une fin en soi, c'est un outil.
Oui,
je me demande si même avec cet outil, on arrivera à voter.
Qui doivent se mobiliser pour toutes les élections, vous voyez les moyens qui sont mis en place, tous les moyens. C'est beaucoup plus écologique que d'utiliser un moyen informatique.
Non mais vous avez raison. En tout cas, je pense que incontestablement, avec cette abstention, élection après élection, ça mérite en tout cas réflexion et que il devra y avoir un véritable débat. Je comprends pas pourquoi on freine pour ça. Certains réussissent et comme le disait très justement Alain, les impôts, votre banque, ça est en ligne.
D'abord, c'est pas la même chose, et ensuite, je suis pas sûr que ce soit en changeant le moyen que l'investissement... cet outil, je ne suis pas certaine que ça fera revenir les jeunes vers le vote et que ça les mènera vers un investissement citoyen. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'au contraire, c'est la conscience civique qu'il faut développer, la volonté d'engagement, la compréhension que nous appartenons à une même nation qu'il faut développer. Ouais. Vous pouvez leur mettre tous les moyens. Et je sais que c'est une génération qui est dans le sweep, le clic, les livraisons à domicile, Lydia, pour tout et n'importe quoi. Ouais. Mais vous pouvez même leur livrer à domicile la possibilité de voter. Je ne suis pas certaine qu'ils voteront quand même parce qu'ils ne se sentent pas forcément concernés.
Éric Revel.
Non, moi je vais jeter un froid. Je pense qu'il y a une raison irréversible pour laquelle les jeunes ne votent plus. Alors là, l'aspect technique, c'est le vote électronique. Bon, très bien, pourquoi pas. Les pour, les contre, on vient de l'entendre. Mais la raison irréversible, c'est que les jeunes s'engagent pour des causes qui sont beaucoup plus internationalistes, la défense du climat, donc qui dépassent en réalité pour eux, la nation, que les réseaux sociaux, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est un point fondamental, les réseaux sociaux, c'est la possibilité pour ces jeunes d'appartenir à des communautés digitales différentes, et la communauté digitale, en fait, fait que l'appartenance à la communauté nationale passe au second plan. Donc vous avez, à mon sens, un problème générationnel, c'est-à-dire des causes qui, pour eux, sont internationales. La pollution, c'est pas seulement un problème français, donc ils s'y engagent, et avec des outils qui sont internationaux, qui s'appellent les réseaux sociaux. Et ils appartiennent à des communautés, malheureusement, en délaissant la communauté nationale.
Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une réflexion particulièrement intéressante et on ne va pas y échapper en vue des prochaines élections. On verra ce qui se passera dimanche, probablement, mais en tout cas autour de cette abstention qui est très forte et comment mobiliser les jeunes pour la vie de la démocratie, la vie du pays, quand même. C'est capital, quoi. On ne peut pas se dire mais ils n'ont que... Non, il faut tout faire et mettre probablement en place des moyens plus adaptés. Nous en avons parlé ce matin avec Michel Virvorka et nous inviterons de nouveau une spécialiste dans les prochains jours qui a beaucoup travaillé, qui a été auditionnée au Sénat et à l'Assemblée nationale à ce sujet pour avancer un certain nombre de pistes qui passent aussi par l'école, bien sûr, mais aussi par des outils. Cécile.
Oui. Là, je voulais vous proposer de vous offrir un cadeau, du coup.
Merci.
Vous dites merci, vous ne demandez même pas quoi.
Non, je...
On vous offre un jeune.
Il est surpris.
Non, mais voilà, pour votre fidélité, on vous offre une Ice Watch. Vous savez, c'est la montre du moment. Hein. C'est la Ice Solar Power qui puise uniquement dans son énergie, dans la lumière naturelle et artificielle. Donc, vous n'aurez pas besoin de la remonter. Vous l'aurez au poignet. Elle est éco-responsable. Donc, on est très content de vous l'offrir. Voilà, ça s'appelle la Ice Watch,
on pourrait dire.
Pouvez voter à distance avec.
Voilà, c'est ça.
Et je suis très heureux. Merci en tout cas de m'avoir invité.
Oui.
Et voilà. Et j'espère que
En tout cas, vous avez fait un bon débat
sur ce vote électronique.
Oui.
Il n'est finalement que moyen.
Vous avez raison. Ça fait partie des réflexions qu'il faut mener, quoi. De même que revoir peut-être l'éducation.
On finira un jour, on sera à 40% d'abstention et ce ne sera pas uniquement les jeunes. Donc,
vous êtes pour ou contre le vote obligatoire, Alain?
je me pose la question parce qu'en fait, voilà, je pense que ça serait bien, mais d'un autre côté, c'est quand même, c'est pas laisser le choix aux personnes, comme on le dit.
Ouais.
C'est un peu, pour moi, c'est quelque chose, voilà, c'est pas pour moi.
C'est délicat. Merci en tout cas.
Merci. Bonne journée à tous.
Oui, 0826-300-300, vous le savez, vous pouvez réagir à tout moment sur Sud Radio pour nos grands débats. Dans un instant, on va vous parler sécurité, renseignement, avec l'un des meilleurs spécialistes qui a écrit un ouvrage formidable, qui est particulièrement intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup d'aventures derrière l'espionnage. C'est l'espionnage pour les nuls avec Alain Bauer et l'avocat Christophe Soulez.
Oui, on en parle dans un instant et vos appels. Inscrivez-vous 0826 300 300, à tout de suite.